Bonjour à tous et à tous. La mise en place est un peu longue, il y en a un peu partout, mais c'est pas grave, on va y arriver. Nous y voilà. Un Allemand ayant vécu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale a écrit un livre, un romancé, avec un très court titre qui est « In Westen nichts Neues », à l'Ouest, rien de nouveau. C'est ce que le personnage principal écrivait à sa famille dans ses lettres pour les préserver de la violence de ce qu'il vivait au quotidien. En ces quatre mots, Heinrich Maria Remarque résume la riche et tumultueuse vie, mort, les camaraderies, les désespoirs, l'espoir, les doutes, les moments d'accalmie et tout ce qu'il a vécu durant ces quatre années de combat inimaginable, rempli d'horreur, d'intensité, propre au front de la Première Guerre mondiale. Il en dresse un portrait sans phare en 224 pages dans l'édition de poche en français. Ce matin, nous laisserons Verdun, le chemin des dames, les éparges et d'autres batailles fracassantes, les échos des bruits, le gaz, la haine, aveugle des hommes qui s'entretuent au son du clairon. Et nous allons regarder dans la Bible le résumé de la vie d'un homme qui tient dans deux petits versets dans l'Épître aux Hébreux, qui font référence à deux autres versets qui sont dans un autre livre écrit plus de 1000 ans auparavant, le livre de la Genèse. On va regarder ce que peut nous apprendre la vie d'Enoch, fils de Jéred, qui a vécu 365 ans sur cette terre. Des moments de vie qui ne furent pas un long fleuve tranquille, parce qu'il était au milieu d'une génération où il nous est dit qu'elle était pleine de débauches et de violences. Il n'était pas à la finalité du processus, mais il était dans une dégradation des mœurs qui a conduit Dieu à juger que sa création avait été trop loin, ce qui lui a fait provoquer le déluge. Je vous invite donc à lire dans Hébreux, chapitre 11, les versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au début de ce chapitre 11 des Hébreux, nous avons l'auteur qui nous parle de la foi, cette ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, cette démonstration, quand on a la foi, cette démonstration que l'on prend vraiment Dieu au sérieux, qu'on lui fait confiance et que l'on vit en conséquence de ce qu'il nous dit, des promesses qu'il donne, de cette assurance qu'il est auprès de nous. On a vu également que le fait de croire en Dieu, ça nous permet d'envisager, de réaliser que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé non seulement les lois qui régissent l'univers, mais qui est souverain et qui maîtrise toutes choses. On a également vu avec Abel et Caïn qu'on n'est pas agréé de Dieu parce qu'on fait des beaux sacrifices, parce qu'on est de telle ou telle lignée, de tel ou tel nom, mais que Dieu regarde à la foi, à la confiance qu'on met en lui, et que cela l'honore. Et pour cela, Abel a reçu un témoignage favorable sur son offrande. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de grandiose, mais parce que la foi qu'il a mis dans son sacrifice, dans son offrande, a vraiment touché le cœur de Dieu, et que même si Abel est mort aujourd'hui, son offrande parle encore. Et là, on nous parle de Enoch. Enoch, c'est quelqu'un que l'on voit dans Genèse, au chapitre 5, et nous voyons que la foi l'a conduit à être agréable à Dieu. Il est descendant de la famille de Seth. Seth, c'est le petit frère de Caïn qui est venu après qu'il ait tué Abel. Quelqu'un qui était plus proche de Dieu, en tout cas, que Caïn. Et nous allons lire dans Genèse, chapitre 5, les versets 1 à 24, pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur cet homme Enoch, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre. « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 134 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécurent furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Ce n'est pas notre Enoch dont on parle ce matin. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, là on parle de notre Enoch dont l'Épître aux Hébreux fait référence, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Est-ce que vous voyez la différence entre ces générations qui sont venues avant Enoch et cet homme Enoch? Il nous est dit un petit élément très particulier. Lui aussi, il a engendré des fils et des filles, mais il a marché un moment avec Dieu. Il nous est dit qu'il était agréable à Dieu, et il ne nous est pas dit que le nombre de ses jours fut de tant d'années. Il ne nous est pas dit le nombre de ses jours. Il ne nous est pas dit non plus qu'il mourut. Il nous est dit qu'on ne le trouva plus. Et l'Épître aux Hébreux nous explique que Dieu l'a pris pour qu'il échappe à la mort. On a vraiment une personne qui a ce privilège que très peu de personnes ont eu. Si on regarde la Bible, autant que je sache, il y a une autre personne à qui c'est arrivé, c'est le prophète Élie. Il a échappé à la mort physique. Maintenant, qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre pour nous? En quoi est-ce qu'elle nous concerne? Parce que l'Évangile ne dit pas que nous allons tous échapper à la mort physique. Hélas, on a tous connu ici des gens que l'on aime beaucoup, qui marchaient avec Dieu, qui sont des gens droits avec Dieu, et qui sont passés par le tombeau. Ce n'est pas là le message de l'Évangile. Par contre, ce message d'Enoch doit nous encourager. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. C'est qu'Enoch était un modèle qui nous encourage à nous efforcer de plaire à Dieu, à marcher avec lui. Parce que nous avons cette espérance qu'au final, Dieu prendra ce qu'il aime, ce qu'il a agréé. Et pour ça, on va d'abord regarder le nom d'Enoch. Quand on a regardé tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une autre personne qui avait un nom qui était presque comme celle d'Enoch, Enoch, qui venait bien avant lui. Quand on regarde, ce n'est pas le texte qu'on a lu ce matin, mais quand on regarde la descendance de Caïn, on a le premier fils de Caïn qui s'appelle également Enoch, exactement le même. Et dans la Bible, les noms ne sont jamais pris au hasard. Quand on regarde la signification du mot Enoch, il est frappant de voir que ça veut dire consacré, initié. Donc on a trois personnes qui ont un nom qui tourne autour de la consécration. Et ces trois personnes, on a Hénoc, fils de Caïn. Caïn, donc, il a tué son frère Abel. C'est quelqu'un où on voit, dans ce que nous dit la Genèse, que ses fils étaient de plus en plus pervertis, de plus en plus durs, de plus en plus méchants. Ça se voit notamment dans le rapport qu'ils ont à leurs épouses, qui sont de plus en plus maltraitées. On sait qu'au final, ça sera le déluge, parce que la terre sera remplie de violence, de méchanceté et de débauche. Et donc ça nous parle de quelqu'un qui est dans la consécration, mais qui fait n'importe quoi avec sa vie, qui a une vie, une attitude qui déplaît à Dieu. Enoch, celui qui est de la descendance de Seth, dont on a parlé tout à l'heure dans la généalogie, qui venait avant d'Enoch, lui, il a presque le même mot, mais il y a une lettre qui change. C'est-à-dire que c'est le mot consécration, mais ce n'est pas tout à fait le mot consécration. Et ça nous interpelle sur le fait que la consécration à Dieu, elle doit être totale pour être agréable au Seigneur. On ne peut pas faire de compromis quand on marche avec Dieu. On ne peut pas être juste venir le dimanche à l'église et vivre n'importe comment quand on est à la maison. Le mot consécration, ça indique vraiment mise à part, particulier, vraiment faire attention à faire ce que Dieu aime, vivre comme Dieu aime. Pour ça, il faut écouter, comprendre et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Donc ce Enoch, il avait une lettre en plus. Bon, ce n'est pas le fait d'avoir une lettre en plus qui fait ou qui ne fait pas qu'il soit sauvé, c'est la foi. Mais peut-être qu'il lui a manqué de la foi pour pouvoir vraiment prendre en compte qui est Dieu, pour pouvoir avoir comme cet autre Enoch, cette volonté de marcher avec Dieu, d'avoir cette communion avec Dieu, pour pouvoir lui aussi être agréable. Et donc ce matin, laissons-nous interpeller sur le fait de pouvoir vraiment être intègre devant le Seigneur, de pouvoir vraiment marcher avec un cœur entier devant Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est vraiment la foi qui nous conduit à marcher avec lui. Deuxièmement, on va regarder qu'est-ce que c'est que marcher avec Dieu. Christ était au centre, doit être au centre de notre vie. Il y a eu un point de changement sur la vie d'Enoch, c'est quand il avait 65 ans. Quand on regarde dans la généalogie, dans Genèse chapitre 5, on voit que les 65 premières années d'Enoch n'avaient rien de particulier. Puis, il lui arrivait deux choses. Rien ne dit que ces deux choses soient liées, peut-être que oui, peut-être que non, mais on n'a pas l'information. Mais la première chose qui lui est arrivée, c'est qu'il est devenu père. Il y a eu une naissance dans sa vie. La deuxième chose qui lui est arrivée, c'est qu'il s'est mis à marcher avec Dieu et il nous a dit que cette marche a duré 300 ans. En tant que chrétien, non, on va d'abord parler de la marche, après on reparlera de la naissance. Marcher, c'est aller d'un point A à un point B. Marcher, c'est une image qui indique que tous les jours de sa vie, Enoch cherchait à être en communion avec Dieu, à faire ce qui plaisait à Dieu, et dans sa vie, il a évolué. Peut-être qu'au début, il marchait un petit peu, puis après, il marchait un petit peu mieux. Dans la marche, on va d'un point A à un point B, puis il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des moments faciles, il peut y avoir des moments difficiles. Quand on marche, on peut avoir des moments sous l'orage, on peut avoir des moments avec du beau temps. Et ça nous parle vraiment de la constance, quels que soient les épisodes que l'on traverse. Sur 300 ans, il a été fidèle à Dieu. C'est quelque chose, comme l'enfant apprend d'abord à quatre pattes, puis après il se relève, il marche difficilement, puis après il court. De la même manière, on est appelé à nous approcher du Seigneur et à marcher de progrès en progrès. Cela fait aussi écho à la communion qu'avait Adam avec son Créateur quand on voit que dans le Jardin d'Éden, Dieu visitait Adam régulièrement. De la même manière, ce texte nous montre que Enoch avait réussi à rester en communion avec Dieu pendant ces 300 années. Le deuxième point qui a bouleversé sa vie, c'est donc une naissance. Alors, ce n'est pas forcément la naissance qui fait qu'il s'est rapproché de Dieu, mais une chose est sûre, c'est qu'en tant que chrétien, ça nous interpelle, parce qu'au commencement de la vie chrétienne, il y a quelque chose de très important qui est la nouvelle naissance. Et ça, Jésus, il en parle à son ami Nicodème, et lui dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pour s'approcher du Seigneur, il y a cette notion qu'il faut naître de nouveau. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Ben, on a quelques indications, notamment dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36 et des versets 25 à 28. Je vais prendre le temps de vous le lire parce que c'est vraiment une description de ce que veut faire Dieu dans chacune de nos vies. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je traiterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je vous ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc on a vraiment ce projet de Dieu qui est valable pour nous, qui à l'époque était fait pour le peuple d'Israël, mais qui est aussi en liaison avec ce que le Seigneur Jésus a fait, et ce qu'il nous appelle, c'est à vraiment naître de nouveau, en laissant le Seigneur vraiment transformer nos cœurs. Et pour cela, il y a cette nécessité de faire une introspection et de voir ce qui, dans nos vies, fait un blocage. Parce que le Seigneur, il se montre comme étant quelqu'un qui est plein d'amour, plein de patience, plein de miséricorde, qui rejette la présence du mal et qui a cette volonté que le pécheur se retourne vers lui. Et nous, notre rôle, ce n'est pas simplement d'attendre que le Seigneur fasse tout. Notre rôle, c'est vraiment d'avoir cet élan de cœur, de se tourner vers lui et de lui dire, ben voilà Seigneur, voilà les choses qui ne te plaisent pas dans ma vie, que j'ai faites, et je te demande pardon et je veux vraiment changer. Et pour ça, on a une autre clé de compréhension qui est dans Ésaïe, au chapitre 66, au verset 1 et 2, où voici ce que dit l'Éternel. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dieu rejette les orgueilleux, mais il est proche des humbles et des cœurs brisés. Il a des entrailles de miséricorde. Nous avons du prix à ses yeux. Nos péchés lui sont insupportables et nous excluent de sa présence. Mais telle une mère, Dieu nous aime et désire que nous revenions à lui. » Une mère, elle est capable d'endurer énormément de souffrances vis-à-vis de son fils, ou de sa fille, même quand son enfant agit mal vis-à-vis d'elle. De la même manière, Dieu nous est décrit comme ayant ses entrailles de miséricorde et de patience. Il n'excuse pas le mal, mais par contre, le Seigneur a un plan pour pardonner et il est prêt à aider celui qui est de bonne volonté. Et pour illustrer ça, on a le témoignage de ce qu'a vécu un homme qui a été meurtrier, qui a été adultère et qui est revenu de tout son cœur vers Dieu. C'est le psaume 32 qui a été écrit par David après qu'il ait tué un de ses serviteurs pour pouvoir épouser sa femme, pour pouvoir masquer un adultère. Et voilà ce que David dit. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu as un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à faire cette introspection, non pour s'auto-justifier, pour avoir, vis-à-vis d'une morale personnelle, ni pour se comparer aux autres, mais vraiment pour pouvoir regarder par rapport à l'échelle de Dieu, où est-ce qu'on en est, afin de rien laisser entre moi et Dieu. Car Dieu a un caractère miséricordieux qui veut nous sauver. Et pour ça, il y a toute la notion de la foi qui rentre encore en ligne de compte. Parce que pour ça, il faut lui faire confiance. Là, on a le fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et se croire, c'est vraiment lui faire confiance. Ce n'est pas simplement une notion intellectuelle de savoir que ça existe quelque part, mais c'est vraiment se l'approprier. Voilà, Dieu, il m'aime. Dieu, il a tout fait pour que je puisse être pardonné de mes fautes. Dieu, il a tout fait pour que je puisse m'approcher de lui. Il m'a montré le chemin. Et il est comme cette mère qui a ses entrailles pleines d'amour vis-à-vis d'un fils ou d'une fille qui s'est mal comportée vis-à-vis de lui, qui est prêt à pardonner. La clé, c'est la sincérité. On ne parle pas de sacrifice à faire. On ne parle pas d'aller à tel ou tel lieu. On parle simplement de croire. De croire à l'œuvre du Seigneur et de la prendre au sérieux. Avoir un vrai regret sur les choses mauvaises et avoir une vraie assurance que quand son pardon est donné, il est pleinement donné. Nous avons le cas d'Enoch. Enoch, il ne connaissait pas la croix de Jésus, c'est bien après. Il n'en avait sûrement même pas conscience. Mais à un moment, il s'est approché. C'était donc vraiment son point A. Son point A, il s'est approché de Dieu de manière à ce que Dieu puisse l'accepter dans sa présence. Et Enoch, ce qu'on voit aussi, parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours simple, il a considéré qu'il était profitable de marcher avec Dieu plutôt que ce que l'Épître aux Hébreux appelle la jouissance du péché. Dans l'Épître aux Hébreux, on a certains passages qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu Dieu intervenir. Il y a notamment plein de gens qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu la traversée de la mer Rouge, qui ont vu les 10 plaies qui sont abattues sur le pays d'Égypte et qui pourtant ont endurci leur cœur et qui pourtant n'ont pas voulu ouvrir leur cœur au Seigneur et vraiment lui être agréable et qui sont restés avec leur comportement, leur attitude. Ils faisaient partie du peuple hébreu, ils ont suivi les fêtes et puis à un certain moment, il y a une différence, entre ceux qui voulaient vraiment servir le Seigneur et ceux qui étaient restés en arrière, qui ont fait des veaux d'or et qui ont fait n'importe quoi et qui ont manifesté qu'ils n'ont pas cru dans le Seigneur. Et donc, Enoch, il n'a pas regardé à la facilité de vivre sans Dieu en utilisant le mensonge, la tromperie, la violence, la débauche et toutes ces choses-là, mais il a vraiment eu à cœur de se dire, même s'il y a un effort à faire sur un certain point, c'est quand même profitable d'être proche du Seigneur. Et aujourd'hui, de la même manière, nous aussi, nous sommes dans un monde qui est en pleine décadence morale, où il y a des belles choses, mais à côté, on a des choses qui sont normalisées comme étant des bonnes choses qui sont foncièrement mauvaises aux yeux de Dieu. De la même manière, nous aussi, on a à avoir cette foi qu'il vaut mieux parfois renoncer à des plaisirs, renoncer à des facilités de ce monde pour pouvoir être intègre et être agréable à Dieu. Je n'ai pas mis mon compte rendu, je ne sais pas où j'en suis. Je vais faire court pour la suite, pour éviter de trop dépasser. Mais en tout cas, on a toute cette notion qui est développée par Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, où il nous dit que pour être en communion avec lui, il faut garder sa parole, il faut garder ses commandements, et que c'est la marque de quelqu'un qui l'aime. Enoch aimait le Seigneur. C'est pour ça qu'il marchait avec Dieu, parce que Dieu ne peut pas être en présence du mal. Donc à nous de chercher le Seigneur, de chercher à comprendre ce que le Seigneur nous encourage à faire, à dire ses interdictions et ses encouragements dans la Bible, à chercher à les comprendre, à les retenir et à les mettre en pratique. Les conséquences de la foi d'Enoch, c'est qu'il a marché selon le bon conseil de Dieu, et nous avons cette promesse qu'il nous donnera son esprit, qu'il est tous les jours à nos côtés, et que nous sommes également invités à avoir cette communion quotidienne avec Dieu, pour saisir cette promesse par la foi. Enoch a marché 300 ans, et où est-ce qu'il est arrivé ? On arrive à un autre point, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux personnes qui, sur Terre, dans tout ce que nous dit la Bible, ont échappé à la mort physique. Très certainement, nous tous, sauf si le Seigneur arrive avant, nous allons connaître cette mort physique. Mais l'espérance du chrétien, c'est que Jésus est venu, lui aussi est mort, mais que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et du fait qu'il soit ressuscité des morts, ses disciples ont cette espérance qu'un jour ou l'autre, le Seigneur a vaincu la mort, qui nous, même à notre niveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul développe en disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés après l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ça, c'est l'avantage de marcher avec Dieu. On connaît le point B. Le point A, c'est la repentance. Parfois, elle peut être douloureuse. Ça peut faire mal parfois d'abandonner certaines pratiques. Mais le point B, c'est la communion avec le Seigneur dans le ciel. C'est le fait de ne plus être dépendant de la vieillesse, de ne plus être dépendant de la maladie, d'avoir l'oubli total de toutes les galères, toutes les mauvaises choses qu'on a vécues sur cette terre, parce que c'est vraiment ça la promesse et l'espérance de l'Évangile. La foi du chrétien, c'est de savoir que la mort est vaincue. Même si à vue humaine, c'est incompréhensible, même si à vue humaine, on ne sait pas comment cela peut se passer. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur, lui, il sait. Il l'a déjà montré qu'il était capable de le faire. La Bible nous dit qu'il y a 2 éternités possibles. Au final, tout le monde va ressusciter. Seulement, il y en a qui vont ressusciter comme Enoch pour être en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, et il y en a qui vont ressusciter pour un lieu qui s'appelle l'étang de feu, un endroit de tourment éternel. Il y a très peu de choses qui sont dites dessus, il y a beaucoup de gens qui ont raconté plein de choses dessus. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un lieu de regret, un lieu de souffrance, un lieu sans fin où on ne sort pas. Il y a 2 chemins. La Bible nous parle clairement à plusieurs endroits de 2 chemins. Un chemin qui mène à la vie éternelle. Ce chemin, il passe par Jésus-Christ pour nous, qui révèle Dieu le Père, qui nous amène à avoir une vie transformée, à passer par cette nouvelle naissance. Et l'autre chemin, de ceux qui ne se soucient pas de leur Créateur, ceux qui ne veulent pas être réconciliés avec Dieu, qui mène directement loin de Dieu. Aussi, ce matin, regardons où nous sommes, et si on n'est pas sur le bon chemin, il n'est pas trop tard pour revenir sur le droit chemin. Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Juste pour terminer, ici, beaucoup d'entre nous sont des parents, il ne faut pas oublier que nous avons aussi la responsabilité de montrer ce chemin à nos enfants, de montrer par des mots, de montrer en montrant la Bible et de montrer aussi par des pratiques en étant des modèles. Parce que le monde propose plein de modèles, mais il n'y en a qu'un qui mène à la vie éternelle. Soyez bénis.